Vous écoutez
RMC.
Il est 7h sur RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Victimes, parents, militants, des hommes et surtout des femmes. Après la mort de Liana, ils étaient plusieurs milliers hier soir à se rassembler pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice. Moins nombreux et plus vieux, le visage de la France dans 10 ans selon l'INSEE, avec des conséquences, vous l'entendrez, sur le marché du travail. Et les Bleus qui s'envoleront demain pour la Coupe du Monde avec une victoire dans leur valise. 3-1 face à l'Irlande du Nord.
Des milliers de personnes en colère rassemblées hier soir partout en France.
Réunies devant les tribunaux du pays pour dénoncer les manquements de la justice dans le sillage de l'affaire Liana. Ils étaient près de 3000 à Paris, en deux lieux, place Lépine mais aussi place Vendôme. Ce dernier rassemblement sous les fenêtres du ministère de la Justice n'était pourtant pas autorisé. 1200 personnes ont tout de même bravé l'interdit pour interpeller le garde des Sceaux, Philippine Boulay. Il était pour RMC.
Arnaud Gallet, militant pour la protection de l'enfance, ne comprend pas cette interdiction.
Ils veulent pas de bruit devant leur ministère. Et on se dit que c'est devant le ministère de la Justice qu'on doit être, parce que ça dysfonctionne sévèrement.
Ils sont 1200 venus dire leur colère, notamment contre Gérald Darmanin.
Soi-disant, il y est pour rien, il dit qu'il a tout fait. Et c'est pas possible de dire ça, en fait, c'est indécent. Au moment où on est en train de pleurer une enfant, il dit que, soi-disant, tout a été bien fait de lui de son côté, alors qu'on connaît les dysfonctionnements de la justice.
La revue des 70 000 plaintes impliquant des enfants exigées par le ministre de la Justice ne convainc pas Barca du collectif MeToo École.
Et pourquoi est-ce qu'on est à 70 000 dossiers? Ils faisaient quoi avant?
Elle demande plutôt une refonte complète du système.
Faut tout refaire, toute la chaîne de signalement, la façon dont les dossiers sont traités. Faut absolument que ça change. On peut pas attendre des drames arriver tous les jours. Un signalement, c'est déjà un signalement de trop.
Comme de nombreux manifestants, Barca réclame la démission du ministre de la Justice.
Une démission écartée par Gérald Darmanin qui évoque un manque de priorisation des dossiers, rejetant l'idée d'un manque de moyens. Et parmi les manifestants hier, des militants associatifs venus réclamer l'adoption d'une proposition de loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans les tiroirs depuis décembre. C'est ce que réclame aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui a décidé de prendre la parole hier, Sonia Gobry, pour interpeller le gouvernement.
Image assez rare, Yael Braun-Pivet en conférence de presse, entourée de députés de différents bords politiques, pour appeler au sursaut face aux violences sexuelles.
C'est le sujet d'une nation et c'est un sujet qui dépasse largement les clivages politiques. Dans ce temps de campagne présidentielle, n'en faisons pas un affrontement partisan. La situation est trop grave.
Cette proposition de loi initiée par le PS et co-signée par une centaine de parlementaires veut toucher tous les domaines.
La justice, la sécurité, le foyer, les activités sportives, l'éducation, tout doit être pris en compte.
Parmi les mesures, la création d'une juridiction spécialisée en matière de violences sexistes et sexuelles ou encore la mise en place d'un entretien annuel confidentiel pour chaque enfant dès la maternelle avec un professionnel formé au repérage des violences.
Le temps où nos rapports servent à caler des étagères est terminé. Nous devons agir. Le Parlement y est prêt.
Pression de Yael Braun-Pivet sur le Premier ministre. Ce texte contre les violences faites aux femmes et aux enfants somnole dans un tiroir depuis 7 mois. Mais après l'effroi provoqué par la mort de Liana, l'entourage de Sébastien Lecornu fait savoir qu'il veut accélérer son examen.
Et Sébastien Lecornu qui va justement réunir ses ministres ce matin sur la protection de l'enfance avec sur la table de nouvelles mesures législatives visant à enrichir ce projet de loi.
La réponse politique est-elle à la hauteur? Faut-il changer la loi? Deux invités sur RMC ce matin à 7h40, une députée socialiste qui présente l'une de ces lois contre les violences sexuelles et sexistes. Et puis à 8h30, mon invité, ce sera Laurent Wauquiez des Républicains.
Et ce matin, on n'en sait plus sur les conditions de détention de Jérôme Barella, principal suspect dans cette affaire. Liana écrouée dans une prison du sud de la France, prochainement placée à l'isolement sous la vigilance du personnel pénitentiaire pour éviter un suicide. Notez que ses deux filles, elles, ont été déscolarisées. Patrick Bruel, visé par deux nouvelles plaintes déposées fin mai et début juin pour des faits de viol. Deux autres devraient l'être dans les jours à venir et c'est pour d'autres procédures qu'il est toujours entendu ce matin en garde à vue, auditionné pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle sur 13 victimes présumées. Un soulagement pour Flavie Flamand, elle aussi a porté plainte contre le chanteur de 67 ans.
Comme toute plaignante, oui, j'attends effectivement d'être entendue. Je ne doute pas d'ailleurs que je serai entendue par un juge d'instruction. J'attends des nouvelles de la justice, mais je suis soulagée aujourd'hui de voir que ces femmes que l'on n'entendait pas il y a encore 3 semaines et que l'on silenciait d'une certaine façon sont des femmes qui aujourd'hui sont des femmes puissantes devant la justice et qui sauront démontrer les accusations qu'elles ont à l'encontre de Patrick Bruel.
7h05 sur RMC. La question d'un allongement du délai de départ à la retraite revient à la une.
À plus de 67 ans, c'est la recommandation pour 2070 du Conseil d'orientation des retraites qui s'inquiète du vieillissement de la population et de son décroissement à l'horizon 2037 selon les dernières prévisions de l'INSEE. Et à ce rythme, les plus de 65 ans seraient deux fois plus nombreux que les moins de 20 ans d'ici 2070 avec des conséquences à nage au jarre sur le marché du travail.
Oui, notamment en termes de main-d'œuvre, la baisse du nombre d'actifs va aggraver une situation déjà difficile.
On a déjà pas mal de secteurs et de métiers qui sont en tension, hein, parce qu'on n'a pas assez de jeunes dans ces bassins d'emploi qui sont formés ou tout simplement qui sont là.
Maxime Sbahi est économiste et pour lui, il va falloir recruter des travailleurs ailleurs.
L'immigration, ça peut être une partie de la solution, de dire eh ben finalement ces talents-là, on va les chercher à l'étranger, dans des pays où il y a encore de la jeunesse, ce que fait l'Italie ou l'Espagne ou l'Allemagne à grande échelle, hein, qui en fait font venir des actifs de l'étranger parce qu'il leur manque en fait aujourd'hui des bras et des cerveaux pour faire tourner leur économie.
Mais pour attirer des travailleurs, il faut être attractif face à la concurrence des autres pays touchés aussi par ce vieillissement démographique. C'est ce qu'explique le démographe Gilles Pison.
Dans les prochaines années, les pays avancés vont se trouver en compétition. Les immigrants vont choisir les pays les plus attractifs et la France n'est pas dans cette situation.
Et en plus de favoriser l'immigration légale, les deux experts s'accordent, il faut déployer d'autres moyens, comme par exemple une meilleure politique familiale pour aider à booster la natalité.
Premier bras de fer social pour Jean Castex à la tête de la SNCF avec une forte participation attendue demain pour réclamer un moratoire sur l'arrivée de la concurrence. Les quatre syndicats de cheminots appellent à la grève, une première depuis 2004. Comptez un TGV sur trois, un intercité sur deux, de fortes perturbations attendues également en région.
Les Bleus se rassurent avant de s'envoler pour les États-Unis.
Départ demain pour Boston, après leur victoire 3-1 hier soir à Lille face à l'Irlande du Nord grâce à un homme, Michael Olise, auteur d'un triplé, Florent Germain.
Oui, Michael Olise a réussi à souffler la vedette à Didier Deschamps. Pour la dernière du sélectionneur des Bleus en France, c'est le milieu de terrain du Bayern de Munich qui a brillé et fait vibrer le stade Pierre-Mauroy. Trois buts dont une frappe magnifique. Les supporters français sont sous le charme d'Olise.
Super match de lui.
Je pense qu'il faut qu'il prenne de plus en plus de place dans l'équipe de France et qu'il soit titulaire à chaque match.
Le triplé d'Olise, juste magnifique. Ça va être un joueur à suivre pendant la Coupe du Monde.
Exceptionnel, Olise, je t'aime, t'es trop fort.
Autour des leaders naturels comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Olise devient plus que jamais une arme fatale supplémentaire pour Didier Deschamps.
Non, Michael est rayonnant hein, de par la saison qu'il a réalisée au Bayern. Avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Il est tellement décisif. En plus de ça, pour un joueur offensif, il a une capacité à faire les efforts qui est assez remarquable.
Olise jouera sa première Coupe du Monde cet été et la France compte sur lui pour que l'aventure dure le plus longtemps possible.
Et en attendant la Coupe du Monde, les États-Unis s'ambiancent pour le basket. Troisième match de la finale NBA cette nuit en présence de Donald Trump. Et ce que vous entendez, c'est le président américain qui a été sifflé au Madison Square Garden. Il était venu assister donc à ce match entre les Knicks de New York et les Spurs de Victor Wembanyama, vainqueur 115-111. San Antonio qui revient à 2-1. Pour rappel, il faut 4 victoires pour être sacré champion de NBA.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Et s'il fallait travailler jusqu'à 67 ans et demi, est-ce que vous seriez prêt à travailler jusqu'à plus de 67 ans? C'est la recommandation, dernière recommandation en date du Conseil d'orientation des retraites qui sera présenté jeudi. Bonjour Mickaël Zemmour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des retraites. Il n'y a pas urgence pour vous. Pas urgence à une nouvelle réforme. C'est votre parti pris, vous nous le direz dans un instant. Et je vous attends, vous, au 32-16. Dites-nous, vous êtes peut-être près de la retraite. Est-ce que vous estimez que c'est envisageable 67 ans et demi? Le 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Et si le curseur des retraites s'arrêtait finalement à 67 ans et demi? Bonjour Mickaël Zemmour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et spécialiste des questions des retraites. Dans son rapport, le fameux COR, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites, estime que finalement, après avoir suggéré de travailler jusqu'à 66 ans et demi, eh bien, pour préserver l'équilibre du système, il faudrait repousser l'âge de départ. Bon, d'ici 2070, mais à 67 ans et demi. C'est nécessaire, ça?
Non, mais je crois pas que le corps va dire ça. En fait, le Conseil d'orientation des retraites va rendre son rapport seulement jeudi. Et ce qu'on a depuis hier, c'est une fuite dans la presse du rapport. Et en général, le corps ne préconise pas d'âge de la retraite. Donc la seule chose qui est écrite dans le rapport, c'est qu'à l'horizon de 2070, si on équilibrait le système des retraites uniquement avec le levier de l'âge, alors il faudrait porter l'âge de la retraite à 67 ans et demi en 2070. On est au stade de l'hypothèse et qui a peut-être été monté un peu en épingle dans la presse.
Qui est une hypothèse, j'allais dire quasi mécanique, c'est-à-dire que malgré tout, il y a une question, on le voit bien, et c'est d'ailleurs à la une des journaux ce matin, les chiffres des naissances qui sont toujours très mauvais, donc moins de bébés, plus de personnes âgées, mécaniquement, ça veut dire qu'il va falloir payer pour les retraites.
Alors mécaniquement, effectivement, le rapport du corps tient compte du ralentissement de la démographie, qui change pas grand chose jusqu'en 2045. En fait, c'est les bébés qu'on ne fait pas aujourd'hui qui seront moins actifs, moins nombreux à partir de 2045. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, la retraite prendra plus de place dans l'économie. Donc, soit on payera un peu plus pour la retraite, soit la retraite sera un peu moins généreuse, soit on décalera l'âge. Mais la réforme des retraites de 2023, si jamais on ne la touchait pas, elle continue à s'appliquer jusqu'en 2033. C'est-à-dire qu'on atteint 64 ans en 2033. Autant vous dire que 67 ans, c'est pas pour tout de suite.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites, en fait, il y a trois leviers. Il y a effectivement quelle retraite on perçoit. Bon, elle peut être baissée s'il n'y a plus les moyens de la payer. Quel âge, effectivement, pour partir, donc 66, 67. Et puis, l'autre, le dernier levier, c'est aussi la question de ces cotisations. Moi, je voudrais vous interroger sur les trois grandes propositions politiques à horizon 2027. On sent bien que là, sur les retraites, pour le coup, les propositions sont quand même très clivées. Première proposition, elle est claire, nette et elle n'a pas bougé depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon, pour lui, c'est la retraite à 60 ans. Il reste sur la logique de 60 ans. C'est tenable ?
Ça coûterait cher. Entre les deux, c'est-à-dire entre la réforme de 2023 et la retraite à 60 ans, la première question, je crois, c'est revenir à 62 ans. C'est-à-dire revenir sur la réforme de 2023.
Ça, c'est vous ce que vous dites. Jean-Luc Mélenchon, il dit toujours 60 ans. D'ailleurs, Manuel Bompard me l'a confirmé hier matin à 8h30.
Je pense qu'à l'horizon de 5 ans, c'est un gros pari. Alors, on peut réfléchir. Hein. La dernière fois qu'on avait la retraite à 60 ans, c'était en 2012. Donc, c'était pas dans un monde si différent d'aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un âge qui est relativement bas. Là où la question me paraît pertinente, par contre, c'est qu'on voit dans les statistiques du monde du travail qu'il y a des personnes à 60 ans qui ne sont plus en emploi, qui sont nombreuses. Et il y a énormément de métiers qu'on pourrait qualifier de pénibles que les personnes ne peuvent plus faire au-delà de 60 ans. Et aujourd'hui, on n'a aucune réponse pour ces personnes-là. Et les dispositifs dits de pénibilité attrapent quelques milliers de personnes, quand on peut estimer que ça se compte en centaines de milliers de personnes, les personnes qui, au-delà de 60 ans, ne peuvent pas travailler.
Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que 60 ans, bon, ça vous paraît pas très réaliste. En revanche, trouver un système pour que ceux qui ont vraiment besoin de partir à 60 ans puissent le faire.
Oui, je pense que c'est une vraie question.
Deuxième proposition, celle du RN, Jordan Bardella, qui commence à envisager l'idée de supprimer l'âge minimum de départ, c'est-à-dire qu'il ne compterait qu'en annuité et non pas en âge pivot. L'idée, ce serait en fonction du moment où vous avez commencé à travailler, certains partiraient mécaniquement à 60 ans, mais dans l'absolu, il n'y aurait plus d'âge vraiment charnière.
Là, je pense qu'on est plutôt du côté du slogan qu'on a entendu, pas uniquement du côté du RN, et je vois pas très bien ce que ça voudrait dire. Il n'y a pas de système où on peut imaginer partir à la retraite sans âge. Imaginez, vous avez un très très gros salaire et vous pourriez dire à 45 ans, je prends ma retraite. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui existe déjà, c'est que les personnes qui ont fait toute leur durée, par exemple 43 ans, peuvent partir avant l'âge minimal de la retraite, ce qu'on appelle les dispositifs carrière longue. Mais en fait, ça répond pas à la grosse question que tout le monde se pose. À partir de quel âge on a le droit de prendre sa retraite, quelle qu'ait été sa carrière et avec combien? C'est là-dessus qu'il y a eu une mobilisation au moment du passage à la retraite à 64 ans. Et c'est ça la question pour la majorité des personnes. Donc une retraite sans âge, c'est plutôt un slogan. Et sur le fond, ça laisse un peu l'idée que par une solution technique, on va répondre à un problème politique. Le problème politique, c'est à quel âge on veut avoir le droit de partir à la retraite et avec combien?
Avec une dernière proposition, ça c'est celle de la droite classique, qui avance l'idée d'une part de la retraite par capitalisation. Alors ?
Là aussi, il y a un peu de slogan, parce que la retraite par capitalisation, ça existe déjà. Il suffit de prendre le métro pour avoir des pubs pour de la retraite par capitalisation. Il y a plein d'entreprises qui en proposent. Donc si on réfléchit, qu'est-ce qui serait possible ? La rendre obligatoire. Aujourd'hui, elle est facultative. Est-ce que c'est une bonne idée? Je crois pas, parce que quand on regarde les autres pays qui ont des systèmes par capitalisation obligatoire, ça creuse un peu les inégalités. C'est-à-dire qu'il y a plus d'inégalités entre les personnes qui ont des accidents de carrière et les personnes qui sont en emploi. Par contre, il y a un point intéressant, c'est que quand on promeut la retraite par capitalisation, implicitement, ce qu'on dit, c'est que demain, il faudra payer plus pour la retraite, que ça soit dans le système public ou dans le système privé, parce qu'on aura plus de retraités.
Mickaël Zemmour, restez avec nous. Il y a Audrey qui nous appelle de Bordeaux, qui est fonctionnaire territorial. Bonjour Audrey.
Oui, bonjour.
Bonjour Audrey. Sur les retraites, vous répondez emploi.
Moi, je réponds emploi d'abord. C'est bien de faire de toute façon des études et puis de voir comment ça va tourner. Les ajustements, ça c'est sûr, sont nécessaires. On peut pas toujours rester au même niveau. Par contre, je trouve que ça génère une situation hyper anxiogène de dire que on va devoir travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans. On voit que à chaque fois ça repousse. Mais avant tout, je pense que le plus important, ce serait déjà de permettre aux gens de trouver un travail, de pouvoir travailler et en vivre, et puis donc avec un salaire décent, avant de nous dire vous allez travailler plus encore.
Si déjà encore tout le monde avait déjà un emploi, d'ailleurs mécaniquement, Mickaël, ça serait plus de cotisations, et donc ça ferait mieux tourner la machine, Mickaël Zemmour.
Très clairement, à chaque fois que le chômage soit réduit, ça améliore les conditions du système de retraite. Et je suis d'accord aussi, le caractère anxiogène de mettre dans le débat des chiffres épouvantails comme 67 ans, c'est pas très sérieux. D'abord, c'est pas vraiment une proposition, c'est pas ce qui se pose à court terme. Et surtout, on a un problème devant nous, c'est que pour l'instant, 64 ans, c'est dans la loi, mais on n'est pas prêt à y aller. Aujourd'hui, le marché du travail, à la fois parce qu'il y a du chômage, notamment chez les seniors, mais aussi parce que les conditions de travail sont difficiles, ça va pas bien se passer pour tout le monde. Donc la première question, c'est comment on fait avec cet âge à 64 ans? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'aménage? Est-ce qu'on revient jusqu'à 62 ans? Et donc, effectivement, la question de l'emploi est une partie de la réponse.
Merci beaucoup, Mickaël Zemmour, d'avoir répondu à nos questions. Économiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2. Et merci à Audrey pour son témoignage et sa réaction. Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Arthur Chevalier, bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, les juges sont dans le viseur de leur ministre après l'affaire Liana. L'indépendance de la justice, c'est en fait un concept assez récent.
Et dans les faits, c'est même très récent, puisque pendant longtemps, les juges devaient obéir au gouvernement ou on les mettait dehors, tout simplement.
C'est donc Arthur dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité à 8h30, ce sera Laurent Wauquiez. Restez bien avec nous, il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, comme chaque matin avec vous, on remonte le temps. Gérald Darmanin l'a redit hier soir, pas question de démissionner après l'affaire Liana. Le ministre de la Justice qui pointe des défaillances extrêmement graves du système judiciaire et qui promet d'éventuelles sanctions après une enquête qui va durer 15 jours.
Ah oui, Gérald Darmanin hausse le ton et ça ne plaît pas à tout le monde forcément. L'Union syndicale des magistrats lui a répondu hier par une lettre de son président qui s'appelle Ludovic Fria. Pour qui, je cite, il est inadmissible que des magistrats soient désignés responsables et soumis à la vindicte avant les résultats de l'enquête administrative. Entre le gouvernement et la magistrature, Apolline, le torchon brûle.
Entre les politiques et les magistrats, c'est pas vraiment une grande histoire d'amour.
Pas vraiment, non. Pendant longtemps d'ailleurs, les juges ont eu pas mal d'indépendance. Et en fait, tout va changer avec la Révolution française, puisque pour les révolutionnaires, un juge devait se contenter d'appliquer la loi votée par les représentants du peuple, donc en fait par les députés. Interpréter la loi, c'était rigoureusement interdit. Il y avait même une expression très parlante qui résumait toute cette idée. Un juge devait être la bouche de la loi. Donc en clair, oui, au début de notre République, on ne voulait pas de magistrature autonome.
Contrôler la justice, ça va devenir une vraie tradition française.
Mais absolument. Et d'ailleurs, quand il arrive au pouvoir, Napoléon Bonaparte continue cette politique. Il contrôle toutes les nominations des juges. C'est lui qui décidait de leur avancement. Alors une fois qu'on a dit ça, les juges étaient quand même très puissants, très compétents et très respectés, mais être loyal au gouvernement, c'était pas une option, c'était une condition pour être magistrat.
Quand les juges ne voulaient pas obéir, qu'est-ce qu'on faisait ?
Eh bien, on les purgeait, hein, tout simplement, on ne se posait pas de questions. Quand le pouvoir changeait de main, les juges devaient prêter serment sans condition, sinon, eh bien, on les mettait dehors. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les républicains, donc en fait la gauche, hein, si vous préférez, n'étaient pas toujours favorables à l'indépendance de la justice. Prenez les débuts de la Troisième République dans les années 1880, donc il y a un peu plus d'un siècle, on a révoqué presque 700 magistrats d'un coup qui n'étaient soi-disant pas assez républicains.
On a même envisagé de faire élire les juges au suffrage universel.
Et ça a été très sérieux, hein, c'était à peu près la même période, en 1882, l'Assemblée nationale était là encore à gauche, et la légitimité des juges était déjà au cœur des débats. Les députés s'étaient d'ailleurs mis d'accord sur un amendement qui prévoyait l'élection des magistrats au suffrage universel. Alors, sous la pression du gouvernement, ils ont finalement renoncé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bien, l'indépendance de la justice est évidemment garantie, mais avec une ambiguïté quand même, puisque l'article de la Constitution qui concerne la justice, c'est l'article 64, et il stipule que c'est le président de la République qui est aussi le garant de l'indépendance de la justice, donc il y a un peu une confusion des genres, ce qui prouve bien que le politique ne veut pas complètement se couper des magistrats.
Merci beaucoup Arthur, Arthur Chevalier, qui chaque matin nous remonte l'histoire et le temps, une chronique à retrouver en podcast à tout moment. Il est 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud, à 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV. Mon invité, ce sera Laurent Wauquiez, le patron des UDR. Ambiance,
bah oui, très de gauche. De droite, je mets du Sardou pour l'ambiance. Vous savez, moi j'ai failli venir avec un polo rose, avec un pull bleu ciel noué sur les épaules, un short blanc au-dessus du genou et des mocassins à glands sans chaussettes pour vraiment faire tout le délire. Oh, c'est la rubrique déconne, on est là pour déconner. Et vous l'interrogerez sur la guerre. Alors, pas la guerre en Iran ou au Liban, la guerre de la droite. Laurent Wauquiez de LR qui affronte son pire ennemi politique, Bruno Retailleau de LR aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à débloquer le détroit de la Louse pour la présidentielle? Laurent Wauquiez va-t-il vous annoncer lui aussi sa candidature à la présidentielle? On ne sait pas, parce que moi, je trouve que ça manque de candidats à droite. En
bah oui, bah
on
oui.
En a que 39. Ouais. C'est comme les punaises de lit. Hein. Tu te réveilles chaque matin, il y en a un peu plus. Ah, un Retailleau. Ah, j'ai un Darmanin. Laurent Wauquiez s'est affiché tout sourire avec Édouard Philippe la semaine dernière. Et alors Mathieu, vous allez me demander, mais pourquoi a-t-il fait ça, Arnaud? Eh bien, vous me connaissez. Je suis une sorte de Alain Duhamel adolescent, je suis une sorte de Arlette Chabot qui sourit, je suis une sorte de Catherine Ney sans la chirurgie. Eh bien, c'est une stratégie pour faire chier Bruno Retailleau.
C'est
parce que c'est marrant. En plus, Laurent Wauquiez l'a rajouté derrière, c'était un pur hasard, je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment le mec qui se fait gauler avec sa secrétaire sur les genoux. Vous savez, il a le pantalon sur les chevilles, la cravate sur l'épaule. Et il dit à sa femme, oh là là, c'est pas du tout ce que tu crois.
Non, c'est un
manque de chaise. On manque de chaise. C'est un pur... Mon pantalon me grattait, pur hasard. La clim ne marche plus. Oh. Hein, Christelle.
Oh, oh oui, la clim ne marche plus.
Et il a rajouté derrière, je n'irai pas au meeting de Bruno Retailleau. Je ne veux pas alimenter la machine à perdre.
Et donc, Jamy, comment ça marche une machine à perdre, Jamy?
Eh bien, c'est très simple. Tu prends une grosse machine comme le parti des Républicains et tu veux monter dans les sondages. Mais pour ça, tu utilises Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Jean-François Copé ou même Nathalie Kosciusko-Morizet. Et là... Alors, j'ai lu dans la presse, personne ne veut aller au meeting de Retailleau à part Valérie Pécresse. Mais là, c'est lui qui a dû lui dire, tu sais, t'es pas obligé, hein, vraiment. C'est pas... Alors, si les auditeurs veulent y aller, il reste des places, beaucoup, plein, premier rang. Mais bon, le 20 juin, on sera aussi en pleine Coupe du Monde. Il y a Équateur Curaçao à Kansas City, donc le choix est vite fait. Rendez-vous avec Laurent Wauquiez, c'est à 8h30.
À 8h30, et on vous retrouve, vous, Arnaud, à 8h15, évidemment. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant sur RMC, la météo et le journal de 7h30, bien sûr. On reviendra aussi sur le dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde, victoire 3-1. Rassurant hier soir. Et puis à 7h50, tiens, vous allez voir, notre voix de gauche, Cécile Duflo, elle a décidé ce matin de rendre un vibrant hommage à Bernadette Chirac. Allez, 7h22, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Réveil en garde à vue pour Patrick Bruel ce matin. Le chanteur est entendu par les enquêteurs sur les plaintes pour viol et agression sexuelle qui le visent. On fait le point dans un instant. Plus jamais ça et justice réveille-toi. Les slogans scandés devant des tribunaux par des milliers de personnes hier soir en réaction à l'affaire Liana. Réunion ministérielle prévue en urgence ce matin. Et en basket, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama se donnent de l'air en finale NBA. Une victoire cette nuit et ça fait 2-1 sur la route du titre.
Patrick Bruel, entendu, en garde à vue depuis hier.
Pour la première fois depuis que les plaintes pour viol et agression sexuelle s'accumulent. Dernière en date déposée la semaine passée. Constance Bostoen, cela fait presque 24 heures que les policiers interrogent le chanteur qui continue de clamer son innocence.
Oui, Patrick Bruel est entendu par les enquêteurs sur trois procédures qui concernent des accusations d'agression sexuelle et de tentative de viol qui auraient eu lieu en 1997, 2000 et 2001. En plus de ces trois plaintes, le chanteur est auditionné sur des faits de viol, tentative de viol ou encore agression sexuelle dénoncée par 10 autres plaignantes selon le parquet de Nanterre. La star qui était convoquée depuis plusieurs semaines a donc été placée en garde à vue hier matin dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Ses avocats ont assuré que leur client se tenait à la disposition de la justice, qu'il répondrait aux questions des policiers et qu'il transmettrait tous les éléments nécessaires à prouver son innocence. Lui, qui a été très récemment visé par 2 nouvelles plaintes, 2 autres devraient également être déposées la semaine prochaine pour des faits de viol.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC. Plus de 160 rassemblements hommage à Liana hier soir et autant de foules en colère devant les tribunaux. Et face à la mort de la collégienne du Gers, le principal suspect, Jérôme Barella, était déjà ciblé par plusieurs plaintes. Alors ces milliers de personnes sont venues dénoncer les lenteurs de la justice, le manque de moyens pour la protection de l'enfance et l'inaction, selon elle, du gouvernement. Parmi les manifestants, des victimes, comme ici à Lyon, Vincent Chevalier.
Dans la foule, AD, 30 ans, actuellement en procédure contre un membre de sa famille.
J'ai été victime d'inceste de la part de mon père, de toute petite à une dizaine d'années.
Pour elle, sa prise de parole s'est faite tard, il y a seulement quelques mois. Des faits difficiles à dénoncer pour un enfant.
Avant, on n'en parlait pas du tout déjà, ça a été un grand tabou, même au sein de ma famille. Il faut aussi savoir que ça fonctionne beaucoup comme ça, on peut retrouver la mémoire très tard, parce que c'est ce qui m'est arrivé.
D'où l'importance d'améliorer la prise en charge des mineurs, d'après Sarah, sa sœur, elle aussi victime de violence.
La vision de l'adulte a raison et l'enfant a tort. Et c'est très compliqué, on vit dans un monde où il faudrait peut-être changer la chose.
Quelques mètres plus loin, Marion et sa mère, Anne-Laure, les yeux rougis, toutes les deux très émues par ce rassemblement, en colère aussi contre les délais d'enquête et de justice.
Ça fait 2 ans que j'ai porté plainte, on n'a toujours pas de nouvelles.
Enfant, Marion a subi des viols pendant 1 an de la part d'un autre élève du périscolaire.
C'est scandaleux, on nous dit de dire les faits et au final rien ne se passe.
On a relancé la gendarmerie, on a relancé le parquet, on a 0 nouvelle. Et du coup, bah là on se dit la personne est dans la nature. Et on ne sait pas ce qu'elle fait.
Des victimes qui espèrent aujourd'hui que cette affaire fera enfin bouger les choses.
Et comme une réponse à ces manifestations, ces annonces de Sébastien Lecornu hier soir, réunion ministérielle ce matin, 11h30 à Matignon, le chef du gouvernement qui dit vouloir d'une part enrichir le projet de loi protection de l'enfance, actuellement à l'étude, et d'autre part accélérer l'examen d'une future loi globale sur les violences sexistes et sexuelles. L'actualité ce matin, c'est aussi cette dernière déclaration de Donald Trump. Nous sommes dans les derniers efforts avant un accord avec l'Iran, dit-il, le président américain qui a obtenu hier une suspension des combats entre l'Iran et Israël. Il est 7h34 sur RMC et attention si vous devez prendre le train demain. 4 syndicats de la SNCF sont en grève, la première depuis 1 an et demi, et elle s'annonce suivie. Un TGV sur 3 supprimé, la moitié des intercités, un trafic fortement perturbé au niveau régional également. Victor Joannin, les cheminots ont plusieurs revendications.
Les 4 syndicats appellent à la grève, preuve que le malaise est profond, juge le leader de la CGT cheminot Thierry Nière. Selon lui, une urgence.
L'arrêt des réorganisations qui impacte lourdement le quotidien des cheminots avec des arrêts de travail, un recrudescence, des suicides et puis un mal-être et une souffrance globale qui s'exprime.
Cette transformation à grande vitesse est causée par l'ouverture à la concurrence. Un dogme, selon les mots de Thomas Cavel de la CFDT cheminot, qui est aussi responsable de nombreux gâchis.
Aujourd'hui, les régions, elles sont obligées d'investir tout simplement pour construire des nouveaux centres de maintenance alors qu'on avait des centres de maintenance qui pouvaient être mutualisés. Donc en fait, c'est juste de l'argent mal utilisé.
Les syndicats et Julien Trocaz de Sudrail réclament aussi de renégocier les salaires face à la reprise de l'inflation.
Il n'y a aucun patron qui peut dire que les salariés n'ont pas le droit de revendiquer des hausses de salaire quand on voit l'augmentation des prix de la consommation, la facture énergétique et tout le reste.
Cette grève durera 24 heures, pas plus, et Fabrice Charrière de l'UNSA Ferroviaire confie que la date n'a pas été choisie au hasard.
Pour ne pas être taxé à chaque fois, vous allez empêcher les voyageurs de prendre le train pour partir en vacances ou pour partir en week-end.
Les 4 syndicats se réuniront après-demain pour décider des suites du mouvement.
Et eux, de toute façon, prendront l'avion demain pour s'envoler vers le mondial de foot aux États-Unis. Les Bleus ont battu l'Irlande du Nord 3-1 hier soir, triplé de Michael Olise, entrée en lice de l'équipe de France. Mardi, 21h contre le Sénégal, ce sera à suivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.
Et Jean-Louis Tour nous explique tout dans un instant, juste après votre journal, Victor.
Et lui, on peut vous le dire, est bien soulagé. Victor Wembanyama, star française du basket qui joue avec les Spurs de San Antonio, les finales NBA contre New York. Le premier à
quatre victoires sera sacré champion. Ça, c'est le principe. Alex Biggerstaff, vous nous avez fait vivre le troisième match de la série sur la radio digitale RMC. Après deux défaites des Spurs, victoire 115-111 pour Wemby.
Moins d'erreurs, plus de contrôle. Les Spurs s'étaient donné la consigne avant de s'attaquer au match 3 des finales NBA dans l'enceinte assourdissante du Madison Square Garden de New York. Un succès incarné par les nombreux efforts déployés par Victor Wembanyama. Jamais intimidé, Wemby a offert une victoire primordiale à son équipe pour rester en vie dans ces finales NBA. 32 points, 8 rebonds et 6 passes pour le Français de 22 ans qui a salué la lucidité et le calme de son équipe en conférence de presse après la rencontre.
On était beaucoup plus dans le contrôle et c'était ça la différence. Je pense que les situations difficiles, ça fait ressortir de nous l'urgence en fait de l'exécution. On sait qu'on n'aura pas 100 chances.
Jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe qui a perdu les deux premiers matchs des finales à domicile n'a réussi à remporter le titre par la suite. Sous les yeux du président des États-Unis, Donald Trump, installé en loge pour l'occasion, le prodige tricolore est apparu déterminé à l'idée de réaliser l'impossible. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour le match 4, toujours à New York.
Et là encore, on suivra ce prochain match. Ce sera toujours sur la radio digitale RMC.
Et puis le quintet, c'est à Compiègne aujourd'hui.
Départ 18h30 avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 4. Zarland, son outsider, le numéro 13, Ovidzer, le 4 et le 13.
C'était le journal de Victor Pourchet et on le disait à l'instant, soulagement après le dernier match justement avant le départ des Bleus aux États-Unis. Victoire hier soir de l'équipe de France 3-1 contre l'Irlande du Nord. Vous avez commenté le match pour RMC. Bonjour Jean-Louis Tour.
Bonjour.
Jean-Louis, dernier match donc avant l'entrée en lice de la France, donc on est rassuré.
On est rassuré sur le résultat parce qu'on restait sur une défaite contre la Côte d'Ivoire. Là au moins il y a la victoire, mais il faut tout de suite tempérer. C'est un adversaire qui n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, qui en plus était privé de certains de ses meilleurs joueurs. Donc c'était pas non plus l'opposition la plus importante et elle est assez loin de ce qu'on va rencontrer le 16 juin prochain contre le Sénégal pour le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde à New York. Mais en même temps, il fallait quand même tourner avec une victoire. Il y a encore quelques doutes, notamment sur la fameuse animation offensive, les quatre joueurs offensifs que Deschamps a aligné hier, ça n'a pas été parfait, notamment pour certains d'entre eux, donc il y a encore du travail pour Deschamps, mais au moins partir avec une victoire, c'est toujours bon avant une grande compétition.
Il testait encore un petit peu ce système, il n'en est pas 100% sûr.
Bah oui, parce que ça fait quand même une saison qu'il travaille avec ses quatre attaquants, mais il teste ça quand même parce qu'on sait que dans des gros matchs d'élimination, ça peut être un système un peu déséquilibré avec trop d'attaquants et pas assez de défenseurs par rapport à ce que sait faire Deschamps dans son histoire. Il a très souvent joué avec trois attaquants seulement. Là, il en met quatre. Les quatre qui vont débuter la Coupe du Monde étaient disponibles hier. Ça n'a pas tout le temps été le cas tout au long de la saison. Donc, ils étaient alignés hier dans ce qui devrait ressembler à une équipe qui va affronter le Sénégal. Et autant Olise a été étincelant, autant Doué a été pas mal, autant le duo Mbappé-Dembélé doit encore parfaire ses automatismes.
Ce duo-là, il est donc décevant, mais un nom, vous venez de le dire, Michael Olise, c'est sa Coupe du Monde, ça pourrait être sa Coupe du Monde.
Bah c'est possible parce que déjà c'est sa saison. Il a été monstrueux.
Triplé hier soir, hein, je le reprécise.
Ouais, triplé et c'est très rare. Lui, il avait jamais mis de triplé dans sa carrière et c'est quand même rare les triplés en équipe de France, même sur des matchs de préparation, même contre un adversaire comme l'Irlande du Nord. C'est le meilleur Français de la saison en équipe de France. En club, presque également, il est impliqué dans plus de 50 buts avec son équipe. Le Bayern, il a été élu joueur de l'année en Allemagne et il montre aussi qu'en équipe de France, on peut avoir des débats sur Dembélé, sur Mbappé qui prennent énormément la lumière. C'est normal, il y a un ballon d'or, il y a un vainqueur de Coupe du Monde, mais le plus performant, c'est lui et il l'a rappelé hier avec ce magnifique triplé.
Merci beaucoup Jean-Louis Tour, donc la voix des Bleus sur RMC. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, et c'est dans une semaine tout pile, France-Sénégal, il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.
Liana est morte et sa mort aurait pu être évitée. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui le dit. Alors on fait quoi maintenant? Bonjour Céline Thiébaud-Martinez. Vous êtes députée socialiste de Seine-et-Marne. Vous êtes à l'origine de cette proposition de loi, dite proposition de loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles. Cette proposition de loi, elle est dans les fonds de tiroir depuis des mois. Vous voulez la ressortir, la présidente de l'Assemblée nationale aussi. Vous nous le dites dans un instant. Est-ce que ça pourrait changer? 7h41.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Quelle réponse après la mort de la petite Liana? Faut-il changer la loi? D'un côté, il y a le gouvernement qui se réunit encore ce matin pour apporter, disent-ils, des mesures utiles et efficaces. Et puis de l'autre, il y a les députés, dont vous, Céline Thiébaud-Martinez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée socialiste de Seine-et-Marne. Vous avez lancé un appel hier aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour relancer votre proposition de loi. Elle est déjà prête. Elle était dans un fond de tiroir. Elle dormait depuis quelque temps parce que personne n'avait voulu s'en emparer. Votre proposition de loi, c'est celle qu'on dit intégrale. Intégrale contre les violences sexuelles. Il y a quoi dans votre loi ?
Alors, notre loi, déjà, elle est dite intégrale parce que elle embrasse tout un tas de sujets, tout un tas d'environnements dans la société, parce que toute la société est touchée par les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, dans notre loi, il y a un certain nombre de choses, notamment une réorganisation de notre système judiciaire avec des juridictions spécialisées, des juridictions qui sont dédiées à la lutte contre les violences faites aux enfants et faites aux femmes. Il y a aussi un volet qui est consacré à la protection de l'enfance pour tous les enfants, quels qu'ils soient, victimes de violences, pour les protéger aussi de ces violences. Et puis, il y a un volet sur les violences sexistes et sexuelles au travail, dans l'environnement éducatif, notamment dans l'enseignement supérieur. Un chapitre sur la santé, avec des aspects sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc, on embrasse vraiment un certain nombre de sujets qui concernent le quotidien des enfants et des femmes.
Et c'est d'ailleurs une proposition de loi transpartisane. Elle est soutenue dans différentes familles politiques. Pour qu'elle revienne à la une de l'Assemblée nationale, pour qu'elle soit à l'ordre du jour, ça dépend de qui et de quoi.
Alors aujourd'hui, et c'était le sens de la conférence de presse que nous avons tenue hier à l'Assemblée nationale, notre objectif c'est qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse être examinée par le Parlement. Et compte tenu de l'importance de cette loi, parce que comme elle est intégrale, elle comporte beaucoup d'articles, 79 articles, ce qui est conséquent pour une proposition de loi, nous souhaitons, et c'était le sens de la conférence de presse d'hier, nous souhaitons que le gouvernement prenne sur son temps législatif, sur son temps parlementaire, qu'ils prennent le temps d'inscrire ce texte pour que nous puissions l'examiner dans de bonnes conditions.
Quand vous dites intégrale, est-ce que ça veut dire qu'au fond, on ne peut pas en prendre un morceau? Il faut la prendre en entier ou pas? Et dans ce cas-là, quand vous dites qu'elle est importante, elle est aussi importante en termes de budget. Si l'intégralité de votre loi intégrale était mise en œuvre, c'est 2,7 milliards d'euros.
Ça fait. Oui, c'est ça. La loi intégrale telle qu'elle est aujourd'hui et avec un certain nombre d'autres mesures proposées par les associations enfantistes et féministes, elle est estimée à 2,7 milliards d'euros. Ce chiffre peut paraître conséquent, mais les violences en France coûtent chaque année plus de 90 milliards d'euros. Et on voit bien avec l'affaire...
C'est-à-dire que si elles ne sont pas traitées...
C'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est l'estimation qui est faite. Et on voit bien avec l'affaire Liana, qui est une affaire... Parmi d'autres, malheureusement, on voit bien que cette affaire, elle a des impacts absolument énormes sur l'ensemble de la société, sur la famille de Liana, bien sûr, mais aussi beaucoup plus largement, parce que il ressort des éléments dont on dispose aujourd'hui que l'auteur présumé n'est pas à sa première agression, n'est pas à cette première affaire, et que s'il y avait eu des traitements, s'il y avait eu une prise en charge beaucoup plus en amont, peut-être en effet que cette affaire n'aurait pas eu lieu. Personne ne peut le dire, mais en tout cas, on peut imaginer que les choses auraient été différentes.
Vous plaidez donc pour cette loi. Mais lorsque l'on regarde ce qui a en effet dysfonctionné, si on reprend les mots du gouvernement, dans l'ensemble de la chaîne à la fois judiciaire, mais aussi de signalement, vous parliez de la protection de l'enfance, l'une des petites filles qui dit avoir été victime de ce Jérôme Marella, c'est une petite fille placée à l'aide sociale à l'enfance qui s'est plainte auprès d'ailleurs d'une de ses animatrices au sein du foyer, qui a pris en compte sa parole, qui a fait un signalement, le signalement aussi de l'article 40. Au fond, il y a eu des plaintes, il y a eu des manifestations, il y a eu des paroles, mais rien n'a été suivi de fait. Une loi, très bien, mais est-ce que en attendant, simplement appliquer ce qui devrait exister, c'est-à-dire un signalement est fait, eh bien, il doit être suivi de conséquences, ça serait pas déjà pas mal?
Alors oui, ce serait déjà bien. La situation à laquelle on est confronté, je pense que c'est en ça que la loi intégrale, elle peut permettre de passer un saut, de sauter le gap. C'est que depuis MeToo, depuis les travaux de la Civise, on a dit aux femmes, on a dit aux enfants victimes de violences, parlez, dites-nous ce qui vous est arrivé, on vous croit, exprimez-vous. Le sujet que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on n'a pas fait à la suite de l'expression des victimes.
Donc ça, ça a été fait, c'est-à-dire qu'il parle, en tout cas, voilà, quand on regarde ce qui s'est passé, une petite fille de 7 ans qui a d'abord porté plainte contre Jérôme Barella, plainte qui a été classée sans suite. Une petite fille de 9 ans, Rosa, une autre petite fille, comme je l'évoquais, placée à l'aide sociale à l'enfance, Liana elle-même, qui après une soirée pyjama, s'est plainte à ses parents ou a trouvé étrange, ou en tout cas a exprimé l'idée qu'il avait voulu lui faire des chatouilles. Tout cela, ça a été exprimé. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, c'est ça. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment notre système, alors que ce soit le système judiciaire, mais la société de manière générale, est en capacité d'accueillir la parole des victimes et est en capacité de la traiter comme elle se doit. On peut plus être dans une sorte de position de repli ou de protection, où on aurait d'un côté la parole d'un auteur présumé et la parole d'un enfant avec cette espèce d'équilibre. Ah, mais oui, mais est-ce que l'un ment, est-ce que l'autre dit la vérité? Et ça, aujourd'hui, on voit bien que ça nous impuissante et on doit admettre l'idée que dès qu'il y a une expression, il faut prendre des mesures.
Merci beaucoup Céline Thiébaud-Martinez d'être venue donc défendre le retour de votre proposition de loi à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée socialiste de Seine-et-Marne. Cette loi donc dite intégrale pour lutter contre toutes les violences sexuelles et sexistes. Ne manquez pas à 8h30 le face-à-face. Mon invité, ce sera justement le patron des députés LR. Est-ce que le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, soutiendra le retour de votre loi? Je lui pose la question, bien sûr, à 8h30. La voix de gauche est entrée dans ce studio. C'est mardi, c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Une voix de gauche qui, ce matin, a envie de rendre hommage à une femme de droite.
Oui, à Bernadette Chirac, parce que j'ai beaucoup évolué sur elle et je me dis que si elle était née 50 ans plus tard, c'est peut-être elle qui serait devenue présidente de la République.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu Mario, qui bat les records au cinéma.
Le dernier film d'animation Super Mario Galaxy, qui vient de dépasser le milliard de dollars de recettes dans le monde en 7 semaines. 7 semaines seulement après sa sortie. C'est le premier film à atteindre ce montant cette année. Le plus célèbre des plombiers, issu du plus célèbre des jeux vidéo, et qui, avec ce deuxième film, devient une valeur sûre du cinéma. Il domine le box-office mondial depuis le printemps. En 2023, le premier Mario avait déjà assuré plus d'1,3 milliard de recettes. Alors avec Sonic, avec Minecraft et encore la liste est interminable, Mario confirme que les héros de nos consoles de jeux peuvent rivaliser avec les plus grandes franchises d'Hollywood. On a Mario au cinéma et James Bond en jeu vidéo. Bon, attention, un autre carton en vue, cette fois pour Nintendo toujours. Le tournage du film The Legend of Zelda qui est désormais terminé. Adaptation en prise de vue réelle de l'un des jeux vidéo les plus célèbres de l'histoire, attendu pour le printemps 2027. Un projet attendu par les fans près de 40 ans après le début de la saga Zelda.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est mardi, c'est la voix de gauche, c'est Cécile Duflo. Il est 7h53 sur RMC. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, les obsèques de Bernadette Chirac auront lieu vendredi à Paris. L'ancienne première dame est morte donc vendredi à l'âge de 93 ans. Et vous, la voix de gauche, la femme de gauche, vous voulez rendre hommage à la femme de droite ?
Oui, à la femme tout court, parce qu'en fait, j'avais 20 ans, 1995, quand Jacques Chirac a été élu, et je me souviens très bien de ce que je pensais. Je la trouvais, pour dire les mots, ringarde. Et puis, je supportais pas bien son côté femme d'eux, toujours un pas derrière, qui jouait le rôle de l'épouse. Je trouvais que c'était déplacé dans les années 90. Et puis, en vieillissant, petit à petit, je me suis rendu compte de ce qu'avait été la vie des femmes de cette génération. Et elle a mené finalement un combat qui épouse le siècle quand elle a épousé son mari en 1956. En fait, au moment où elle signe, elle ne peut plus ouvrir un compte bancaire seule, elle ne peut plus gérer ses biens en propre, elle doit demander son avis, et elle était devenue instantanément Madame Jacques Chirac. Elle n'était même pas Bernadette Chirac, elle était Madame Jacques Chirac.
Elle n'avait même plus de prénom, c'était Madame Jacques Chirac, une femme donc très politique quand même en réalité. D'ailleurs, ils se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po, elle-même faisait des études, qui a toujours dit qu'elle ne pensait pas vraiment à la politique avant de rencontrer son mari.
C'est ça que je trouve pas clair. C'est qu'en fait, elle a fait des études.
Clair.
Exactement. Moi, je crois qu'en fait, elle était très, très politique. Et que quand elle a fait ses études, elle a fait des études à Sciences Po, des études tournées vers le service public. C'était rare pour l'époque. Elle ne pouvait pas devenir ambassadrice. Hein. La première femme ambassadeur, ce sera 1972. On est en 1950. Donc, les débouchés professionnels étaient très limités. En revanche, ce que pouvaient faire les femmes militantes et engagées qui avaient envie d'un destin, c'était repérer un homme hommes avec un destin et devenir leur femme. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand on regarde le parcours de Daniel Mitterrand, celui de Bernadette Chirac, en fait, c'est un peu le même. Et je pense qu'elle était quand même attirée par la politique et que c'est pour ça qu'elle était attirée par Jacques Chirac.
Est-ce que ça veut dire que vous vous dites qu'au fond, à une autre époque, elle aurait pu être présidente?
Quand on regarde son parcours, c'est très intéressant. Elle a été conseillère générale en 1979. Alors, c'était pour, soi-disant, arranger son mari, mais à l'époque, il y avait 3% de femmes. 3%. C'est la première conseillère générale de Corrèze. Il y a 146 ans, depuis 146 ans, il y a des élus départementaux, c'est la première femme. Et d'ailleurs, le soir de son élection, c'est même pas elle qui parle, c'est que son mari. Franchement, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle serre les dents? Maintenant, rétrospectivement, je me dis, si on regarde qui il y avait comme femme politique de sa génération, il y en a eu deux, Edith Cresson et Simone Veil. Deux parcours très différents, mais c'est tout, dans un océan d'hommes. Et finalement, elle a montré qu'elle avait du sens politique, elle a montré qu'elle avait ce qu'il fallait pour faire de la politique, de l'instinct, le sens du terrain, de l'ambition et des valeurs. Alors, c'était pas les miennes, c'est certain, mais elle avait de vraies valeurs, elle était très engagée. Et donc, en fait, je pense que profondément, c'était une femme politique.
Alors, en même temps, quand on l'écoute, elle disait que parmi ses valeurs, il y avait le fait d'être une épouse, qu'elle aimait ce rôle d'épouse.
Mais je pense là aussi, quand on regarde, c'est très intéressant de re-regarder les vidéos où il parle d'elle devant elle. Des fois, c'est humiliant. Il dit, ce qu'il faut, c'est qu'une femme de politique, elle se taise. Et on la voit se réfréner. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé de l'affection, parce que je me dis, toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont dû ronger leurs freins? Qu'est-ce qu'elles ont dû prendre sur elles? À quel point ça devait être rageant d'être prisonnière de ce statut? Et elle n'avait pas le choix, en fait. Et elle le dit aussi, il y avait une sorte de discipline inculquée. Et dès le plus jeune âge, il y a un film qui est sorti qui s'appelle La Bonne Épouse, qui montrait ces lieux où on éduquait les femmes à être au service de leur mari. Donc, quel est le résultat de tout ça? Et finalement, elle s'en est émancipée d'une certaine manière.
Elle s'en est émancipée, elle est devenue un véritable personnage. Et vous disiez, elle n'avait pas de prénom au début, puisqu'on disait Madame Jacques Chirac. Elle est devenue Bernadette.
Elle est devenue Bernadette avec un seul prénom, comme Ségolène. Il n'y en a pas beaucoup, des femmes qui vivent uniquement par leur prénom. Et c'est intéressant parce qu'on parlait autrefois de la revanche des veuves, de la libération des veuves, c'est-à-dire le fait qu'elles puissent revivre, redevenir autonomes après la mort de leur mari. Là, son mari n'était pas mort, mais après la fin de sa carrière politique, c'est elle qui en a eu une, qui a existé. Et je me dis effectivement que si elle était née 50 ans plus tard, elle n'aurait peut-être pas eu le même destin. Et donc, c'est en hommage à toutes les femmes de cette génération qui ont serré les dents, mais qui étaient comme nous, qui avaient envie de leur propre autonomie, que je pense très fort à elles aujourd'hui.
Merci. Cécile Duflot, la voix de gauche. Demain, ce sera la voix de droite. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Après le journal, Emmanuel Le Chypre, les arrêts maladie continuent leur progression. Vous nous le dites dans un instant, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.